paranormal.
The flying disc has been found.
El mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Eh bien, Christian Page, bonjour.
Salut Bernard.
Tu viens nous présenter ton livre « Tueur de l'occulte ». C'est à faire frémir, franchement, là, parce qu'on parle pas juste, on parle pas juste de tueurs en série, on parle de tueurs animés par des images de démons, animés par des espèces de forces occultes, dans certains cas qui se prennent un peu pour des messagers de Dieu.
Oui.
Et là, je vais te demander, pas de résumer ton livre, mais de nous présenter, mettons, les trois cas qui sont les plus renversants, qui sont les plus troublants.
Ben, tu l'as mentionné, Bernard, cette description du crime occulte, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement, ce sont des tueurs qui ont commis des gestes alimentés par des croyances mystiques, ésotériques ou occultes. Donc, l'éventail, il est très large. On va de la sorcellerie au vampirisme en passant par le satanisme. Et si tu me demandais, c'est difficile pour moi de faire une sélection. Il y a 13 histoires qui sont présentées dans cet ouvrage, qui est sorti d'ailleurs cette semaine. Et ce sont 13 histoires que j'ai personnellement enquêtées, hein, par mon travail professionnel. À quelques reprises, je me suis retrouvé parachuté dans des trucs et j'ai enquêté sur 13 histoires de crimes occultes qui sont présentées dans cet ouvrage.
T'es allé sur le terrain dans certains cas?
Oui, j'étais allé sur le terrain, j'ai rencontré les procureurs, les juges, les avocats, j'ai rencontré les parents des victimes. Donc, j'ai baigné littéralement dans cet univers glauque des tueurs de l'occulte et dans certains cas, on parle même de tueurs en série. Et si tu me demandais de te faire une sélection de 3 histoires, ben je vais te choisir 3 histoires qui sont marquantes, mais elles sont toutes marquantes. Mais les 3 que je t'ai choisies aujourd'hui, elles sont marquantes pour différentes raisons. Alors, si tu le veux bien, commençons avec ma première sélection. Dans l'ouvrage, on a une histoire qui concerne, la victime s'appelle Elise Paler. Le titre de l'histoire, c'est « Une blonde pour Satan ». Et tu vas comprendre un peu la dynamique de cette histoire-là, qui est quand même très troublante. Hein? Ça se passe au milieu des années 90, on est à Arroyo Grande, c'est en Californie, et on a là, ça se passe dans un univers assez jeune. Hein? Bon, la victime, Elise Paler, elle a 15 ans, et il y a, dans cette ville d'Arroyo Grande, il y a 3 jeunes, en fait, les plus mauvais garçons de la ville. Hein, ils ont formé un groupe. Ils sont âgés entre 14 et 17 ans. Ils ont formé un groupe de musique qui a le nom pas banal de La Haine. Et ces jeunes-là s'alimentent à la musique heavy metal. Donc, ils écoutent ça à satiété. Ils ont plusieurs idoles. Et leur rêve, c'est devenir aussi grand que ces idoles du rock'n'roll qu'ils vénèrent. Et parmi ces grandes vedettes, il y a un groupe en particulier qui est le groupe Slayer, dont les paroles sont souvent excessivement violente. Donc, ces jeunes écoutent à satiété cette musique, ils rêvent de devenir des vedettes de la scène musicale, et là, comme ils s'intéressent également à l'occultisme, parce qu'il faut pas se le cacher, l'occultisme intéresse beaucoup les adolescents, donc les jeunes se disent, tiens, à force de se livrer ou de lire une espèce d'occultisme de salon, un occultisme populaire comme celui qu'on retrouve dans les magazines, tout ça, les jeunes arrivent à la conclusion que nous allons commettre un rituel satanique, nous allons sacrifier quelqu'un pour le diable, et comme le veut la tradition hollywoodienne, cette victime devra être une jeune femme blonde et vierge. Et là, en faisant ce sacrifice humain, ils pourront acquérir cet extraordinaire talent qui va les propulser sur le devant de la scène.
Ah, alors, oui, ok, je comprends là. Oui, ok,
donc,
très bien.
On est à la mi-juillet 1995. Ils vont inviter cette Elise Paler. C'est une jeune fille, une blonde, jeune femme, excessivement populaire et qui a ce petit côté particulier parce que derrière ces aspects de petite fille à papa, c'est une jeune fille qui aime aussi les mauvais garçons. Et comme je l'ai mentionné, les 3 jeunes qui forment le groupe La Haine sont les plus mauvais garçons du village. Alors, lorsque les jeunes l'invitent à les rejoindre à la sortie de la ville pour pouvoir, on est le 21 juillet 1995, ils l'invitent à boire, consommer quelques bières, quelques joints, fumer un peu d'herbe, la jeune femme accepte. Elle se retrouve donc dans le boisé avec les jeunes. Elle est un peu estomaquée de voir qu'il n'y a que eux et elle, donc pas d'autres jeunes filles, malgré ce que ces gens-là leur lui avaient dit. Et là, ben, on commence à par boire quelques bières, et alors qu'elle ne s'y attend pas, les jeunes se glissent derrière elle et avec une ceinture vont l'accrocher à la gorge. Écoute, on est en après-midi, je vais te passer les détails sordides de cette histoire. Mais donc, la jeune fille est assassinée. Et ce qui, il faut quand même le mentionner, l'un des détails les plus sordides, sur l'un des albums de Slayer, il y a une pièce qui s'appelle Nécrophilia. Ils ont l'impression que pour compléter le rituel, ils doivent s'adonner à un rituel de nécrophilie. Ils vont donc revenir à plusieurs reprises sur les lieux du crime. Ils vont abuser du cadavre dans tout ce que tu peux imaginer de sordide. Et ils vont faire ça pendant des jours. Elise Peller ne sera pas retrouvée immédiatement. Donc, les jeunes, eux, continuent à se promener dans la ville, libres comme l'air, à écouter leur musique. Et ils attendent, bien sûr, les bénéfices du diable, qui n'arrivent pas. Tant si bien que l'un d'entre eux va finalement s'amender, aller voir les autorités. Et là, il va conduire la police à l'endroit où le corps d'Elise Peller se trouve. Et là, c'est comme ça que les jeunes vont être arrêtés. Ce qui est étonnant dans cette histoire, pourquoi elle m'a frappé lorsque je l'ai couvert? D'abord, bien sûr, il y a l'âge des agresseurs. On parle de jeunes âgés entre 14 et 17 ans. Mais il y a également tout cet endoctrinement à travers la musique qui s'est fait, où on voit là, qu'ils perdent peu à peu pied à force d'écouter des pièces de musique excessivement violente. Et il y a toute cette imagerie qu'ils vont associer à ça. Et c'est excessivement malheureux. Il faut savoir qu'après cette histoire-là, les parents de la jeune Elise Peller ont poursuivi en justice le groupe Slayer, les accusant en fait d'avoir incité les jeunes au meurtre. Mais malheureusement, aux États-Unis, tu sais que la loi, la liberté d'expression, c'est le premier amendement de la charte américaine. Alors, c'est très difficile de faire quoi que ce soit dans ce sens-là. Et c'est ce qu'a évoqué Slayer devant les tribunaux en disant « si on nous met le baillon pour nous empêcher de faire de la musique, ça contrevient au premier amendement. » Il faut dire que les parents d'Elise Peller ne voulaient pas empêcher Slayer de faire de la musique, mais de mettre sur leurs albums simplement des avertissements pour dire que ce n'est peut-être pas le genre de musique qui, et surtout les paroles, c'est peut-être pas le genre de paroles que l'on souhaiterait qu'un enfant de 10 ou 12 ans écoute à satiété.
OK. Là, il nous reste 6 minutes.
Okay.
Est-ce qu'on fait le chaudron maudit ou est-ce qu'on fait quand satanisme rime avec sadisme?
Écoute, pour avoir le temps de t'expliquer cette histoire, on va passer immédiatement avec le truc des éventreurs de Chicago, là, quand le satanisme rime avec...
Écoute, les éventreurs, déjà le titre.
Les éventreurs de Chicago. Bernard, quand j'ai couvert ces histoires-là, à un moment donné, on se fait un peu une carapace. Il y a une seule histoire que j'ai couverte qui m'a donné des cauchemars pendant des jours, et c'est l'affaire des éventreurs de Chicago. Donc, on se retrouve au début des années 80 dans le Chicago de cette époque. Hein, on sort des années 70 avec l'éclatement de la musique disco et tout le reste. Et là, voilà qu'on a un groupe d'individus, 4 hommes, qui patrouillent les rues de Chicago à bord d'une camionnette, enlèvent des femmes, ils chassent tous azimuts. Hein, donc, peu importe la couleur, peu importe la race, le groupe ethnique, l'âge, ils chassent tous azimuts, enlèvent des femmes. Écoute, ils les mutilent de manière tout à fait épouvantable. Leur objectif, obtenir des organes génitaux qu'ils vont utiliser dans des rituels sataniques.
Aïe, aïe.
Ils vont assassiner une dizaine de femmes dans la grande région de Chicago. Et comment je pourrais dire ça, sans entrer dans les détails, chaque crime est plus horrible que le précédent. Et quand j'ai couvert cette histoire-là, éventuellement, ils seront tous arrêtés. Les 4 seront arrêtés. 2 d'entre eux seront condamnés à la peine de mort. L'un d'entre eux a été exécuté. L'autre a vu sa peine de mort être commuée en prison à perpétuité. Donc, ce sont vraiment des tueurs étonnants. Le leader du groupe, un type qui s'appelle Robin Getch, il ressemble un peu par le profil à Charles Manson. Hein. Tu vois, c'est lui... dirige le mouvement. En fait, il a une telle ascendance sur le groupe que quand les accusations vont tomber, ce sont ses collègues, ses acolytes qui vont prendre toute la charge en disant « Non, Robin n'a rien fait, Robin n'a rien fait. » Et finalement, Robin Getch ne sera pas accusé pour les meurtres, mais simplement pour torture et séquestration, alors que c'est lui le leader du groupe.
Il
les manipule. Et tout ça pour te dire, Bernard, que quand j'ai couvert cette histoire-là des éventreurs de Chicago, on m'a présenté les dossiers, j'ai vu les photographies prises sur les scènes de crime, j'ai parlé avec les policiers qui ont trouvé les victimes et comment ils ont mené cette chasse à l'homme pour arrêter ces éventreurs de Chicago. Et tous ces gens-là, malgré les années écoulées, l'on parle au moment où moi je fais mon investigation, c'est on est 40 ans après les événements. Ces gens-là n'ont jamais oublié ces événements. Ils se rappellent avec une acuité incroyable les détails de chacune des victimes parce que c'était quelque chose d'innommable. On dépassait ici le sadisme. C'était vraiment de la monstruosité avec un M majuscule.
Quand satanisme rime avec sadisme, là, oui. Est-ce qu'ils se croient vraiment ou est-ce qu'ils jouent un jeu? Quand on parle de satanisme, là.
Il faut savoir que quand on enlevait ces femmes, on prenait des organes, on les amenait dans la maison de Robin Getch qui avait aménagé dans le grenier de sa maison un autel avec des rideaux, des croix inversées. On faisait de véritables incantations sataniques. Et dans certains cas même, on s'adonnait à des actes de cannibalisme sur les organes en question. Donc, ça dépasse l'entendement. Est-ce que ces gens-là croyaient réellement qu'ils obtiendraient des pouvoirs de Satan? C'est très difficile à dire, mais pourquoi aller dans de tels extrêmes si ultimement le plaisir n'est simplement que le sadisme et bien sûr les gratifications sexuelles qu'en tiraient les agresseurs? C'est quelque chose de monstrueux, Bernard. Je te le dis, moi-même, quand j'ai vu les photos des scènes de crime, j'ai été un peu troublé par ça, de voir à quel point ces gens-là pouvaient aller dans le sadisme. Et ça, c'était déconcertant.
Comment ils ont été arrêtés? Est-ce qu'il y en a un qui a fini par se rendre puis par...
Pas du tout. Dans le cas des éventreurs de Chicago, ils ont, à un moment donné, pour une raison un peu mystérieuse, l'un d'entre eux a laissé partir une victime. Il l'a mutilée. Donc, la victime était mutilée. Ils l'ont jetée à bas de la camionnette. Mais elle a survécu et elle a réussi à informer les autorités de son état. Et elle a donné des informations qui étaient très particulières. Déjà, les policiers savaient qu'ils avaient affaire à un tueur en série ou des tueurs en série. Mais elle a donné une information qui s'est révélée capitale. Elle a dit, ce qui était étonnant, c'est que dans cette camionnette, il y avait un mur de contreplaqué qui séparait l'habitacle où se trouvait le chauffeur et la partie arrière de la camionnette qui avait été aménagée en atelier. Et en lieu et place du rétroviseur, il y avait simplement une espèce de plume qui pendait. Or, éventuellement, quelques semaines après cette description, simplement dans un contrôle de la circulation, des policiers ont arrêté un conducteur avec une camionnette qui répondait exactement à cette description.
Wow! Alors, ça s'appelle Les tueurs de l'occulte. Voilà, c'est publié. Et tu as une conférence, mon cher, une conférence justement qui porte là-dessus.
Le 5 octobre au Centre Roussin. Écoute toute l'information, www.christianpage.ca, d'un seul mot, toute l'information est là.
Merci, Christian. Alexandra, Marie-Zlaré et Frédéric, merci. Bon week-end, tout le monde.